L'autre séance, la suite, vous venez de voir La Vague. Nous allons revenir sur le film dans un instant et prolonger notre réflexion à l'heure où plusieurs pays d'Europe connaissent une poussée de national-populisme. Quelle idéologie ces mouvements véhiculent-ils exactement? Est-elle dangereuse à terme pour notre système démocratique? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à mes invités. Je leur demanderai aussi pourquoi la crise qui nous frappe profite plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Mes invités, je vous les présente de nouveau, à commencer par Erwan Lecoeur, sociologue et politologue. Vous avez dirigé la rédaction du dictionnaire de l'extrême droite. Vous avez également écrit l'ouvrage « Un néopopulisme à la française, 30 ans de Front National ». À côté de vous, Karl Lang, ancien secrétaire général du Front National. Vous avez créé en 2009 le Parti de la France et vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de 2012. De l'autre côté de la table, Geneviève Reméringer, militante à lutte ouvrière depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et vous en êtes l'une des responsables en Ile-de-France. Et puis enfin, Vincent Cespedes, philosophe et écrivain, auteur de plusieurs essais à caractère politique. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors d'abord, j'ai envie de connaître votre avis sur le film que nous venons de voir, La Vague, qui, je le précise, est inspirée d'une étude expérimentale menée pour de bon, pour de vrai, en 1967. Cette étude s'appelait La Troisième Vague. Elle a été menée par un prof d'histoire qui s'appelait Ron Jones, non pas en Allemagne, mais en Californie, en 1967. Alors, qui me donne son avis? Tenez, Geneviève Reméringer, vous justement qui êtes prof d'histoire géo, à Bondy, votre regard m'intéresse.
Sur ce film, d'abord, moi, j'ai envie de dire, je ne m'y retrouve pas en tant qu'enseignante. Voir les jeunes aussi facilement manipulables, ça ne me parle pas. Je sais bien que ça correspond à une expérience réelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a été dans la réalité. Ce que je me dis, c'est que dans le film, elle est forcément tronquée. Moi, j'enseigne dans le 93. Mes élèves, contrairement à ce qu'on raconte, ils se lèvent pour dire bonjour. Ils respectent des règles et je ne les sens absolument pas manipulables. Je ne pense pas du tout qu'on peut leur faire faire ou penser quoi que ce soit de particulier comme ça.
Donc vos élèves ne ressemblent pas à ceux du film.
Je pense que les jeunes, en général, ne ressemblent pas à ce que le film nous en montre. Quant à l'explication sur le fascisme dans un pays de dizaines de millions d'habitants, ça me paraît, le raccourci me paraît vraiment... pas juste. Au moins pas juste. Un peu choquant.
On va y revenir. C'est intéressant. Vincent Cespedes, est-ce que vous portez le même regard sur La Vague?
Non, moi j'ai vraiment aimé ce film qui fait réfléchir, qui a vraiment cette vertu de faire réfléchir, outre ses qualités plastiques, je trouve très très bien réalisées. D'abord, il fait réfléchir et il montre vraiment une bonne chose, c'est que c'est une jouissance qui est promise. Et ce qui fait qu'on, et ça c'est, il y en a d'autres qui ont analysé ça, William Reich, ont montré qu'il y avait, il y a de l'ordre d'une jouissance de créer une collectivité qui exclut une autre collectivité. Et c'est vraiment cette, pour moi, cette optique-là qui est essentielle et qui est très très bien démontrée dans le film. Les jeunes d'aujourd'hui sont tout à fait manipulables par la publicité, les biens de consommation, on sait très bien comment les manipuler. Et donc on peut très bien voir une personne charismatique pouvoir avoir un discours, ça fait véritablement réfléchir et on se pose la question quel garde-fou on pourrait avoir sur cette jouissance de haïr en commun.
Alors, dans le cadre d'un lycée tel que l'expérience s'est déroulée en 67 en Californie, elle s'est éteinte d'elle-même, je dirais, au terme de deux semaines, elle a duré deux semaines dans la réalité. Mais peut-on dire, selon vous, Erwan Lecoeur, que dans le contexte d'un mécontentement social, d'une frustration de l'électorat populaire, elle pourrait prendre de l'ampleur, une expérience comme celle-là? C'est crédible ou non?
Oui. D'ailleurs, ça a été le cas dans plusieurs autres pays que l'Allemagne ces dernières années. Plusieurs mouvements ont montré ailleurs, notamment, moi je connais bien la situation en Inde par exemple, où on a eu un mouvement nationaliste hindouiste qui s'est constitué dans les années 80, le Bharatiya Janata Party, qui est parti des universités avec un ensemble de gens qui étaient ces jeunes diplômés un peu frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas, alors qu'ils avaient Bac+3, Bac+4, à accéder à l'emploi qu'ils espéraient dans un contexte de démocratisation, de libéralisation de l'Inde. C'est un grand pays, donc ça représentait 2 millions de personnes quand même. Voilà, à partir d'universités, à partir de petites entités comme celle-là. Ce film, moi je l'ai trouvé d'abord très bien, si vous me permettez, parce que je trouve qu'il n'est pas, il n'en fait pas trop. Il montre bien ce que sont des personnes qu'on prend comme ça et qui sont prises individuellement au début du film. Non, en effet, on ne supposerait pas qu'elles puissent entrer dans un jeu comme celui-là pour avoir... pour ma part, lu beaucoup sur ces sujets depuis toutes les expériences qui ont été menées à la fin du 19e siècle, au début du 20e, etc. Qu'on pense à l'école de Francfort avec Adorno et Horkheimer qui montraient que la personnalité autoritaire, qui expliquait en partie l'émergence du fascisme dans l'Allemagne des années 30, venait de choses aussi subtiles que, par exemple, les frustrations liées à l'homosexualité refoulée, dans les SS par exemple, ou dans les SA dans les débuts. Et donc il y a, comme le disait Vincent Cespedes, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la récupération, l'utilisation et la mise en forme collectivisée de différentes formes de frustration. Et on le voit bien dans le film. Ce qui disjoncte à un moment, ce que nous oublions toujours, c'est que ce sont des frustrations qui mènent à l'engagement le plus ultime qui va dans le film jusqu'au drame de la fin.
Je vais y revenir effectivement dans un instant.
Pour répondre à votre question, oui. Une société, mais ce n'est pas forcément parce qu'une société connaît du chômage, c'est parce qu'elle connaît diverses formes de frustration que les gens ressentent à titre individuel et qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans une nouvelle collectivité dans laquelle ils se trouveraient, familiale, l'église, l'école ou l'armée. Et c'est bien la fin des institutions collectives qui donne lieu, en effet, à une demande de nouveaux collectifs, de communautés. Et le mot est bien prononcé, c'était Max Weber qui expliquait socialisation d'un côté, communautarisation de l'autre. Nous sommes en effet dans nos sociétés capitalistes occidentales ultra-modernes. Nous sommes dans un moment où les gens recherchent de nouvelles formes de communauté. On le voit à travers les tribus qui se créent, on le voit à travers toutes sortes de choses, la consommation, mais aussi d'autres formes d'appartenance collective. Les gens aujourd'hui ne vont plus en manifestation parce qu'ils militent, mais parce que leurs copains vont en manifestation.
Karl Lang, votre regard sur l'expérience telle qu'elle est montrée dans ce film mené par ce prof dans un lycée.
Écoutez, je ne sais pas quelle était la prétention du film, mais s'il s'agissait de faire une analyse politique, une analyse historique de tous les totalitarismes, c'est le degré zéro de l'analyse, puisqu'on a en fait une sorte de petit film sympathique, assez naïf finalement, qui traite finalement de quoi ? Du conditionnement psychique, des méthodes de prise de contrôle de la jeunesse. Et puis on s'aperçoit que les techniques développées, c'est quoi ? C'est l'uniforme, la discipline, le fait de marcher au pas, faire de la gymnastique, s'affirmer par rapport aux autres, instaurer la notion de communauté. Et ben, si c'est ça le fascisme, le totalitarisme, c'est comme ça que fonctionne toutes les organisations sportives. C'est le mondial du rugby au mois de septembre et au mois d'octobre. Eh bien, c'est exactement comme ça que l'on motive des sportifs de haut niveau pour leur apprendre à dominer, à s'imposer. Nous sommes à des années-lumière de l'analyse historique, philosophique, politique ou idéologique. C'est le degré, encore une fois, zéro de l'analyse. Je crois que, de surcroît, ce film traite peut-être de l'autocratie, c'est-à-dire du mode de comportement autoritaire du chef de bande ou du chef de meute, de tout ce que vous voulez. Oui, peut-être, mais en aucun cas de la question beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde, beaucoup plus historique, qui est celle du totalitarisme, qui s'appuie sur des notions de pouvoir de l'État, qui s'appuie sur des notions de système totalitaire, qui s'appuie sur des notions de parti unique. Ça n'a rien à voir avec l'analyse du... Il y a un grand film qui traite de cette question-là, qui s'appelle « La vie des autres », qui a obtenu l'Oscar 2007 du meilleur film étranger, qu'il a effectivement, quand il a son regard sur la RDA, la République démocratique allemande des années 80, là, effectivement, est une analyse efficace. Là, nous sommes dans le quasi-gadget, dans le gadget du cinéma.
Alors, je reviens sur la fin du film, qui se termine tragiquement. Qui est différente de ce qui s'est passé dans la réalité, puisque dans la réalité en 67, en Californie, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de mort. Simplement, à la fin des deux semaines, ce prof d'histoire a diffusé à ses élèves un documentaire sur le procès de Nuremberg. Et à ce sujet, Denis Gansel, le réalisateur du film, déclarait au moment de sa sortie en 2009, « J'ai décidé de changer radicalement la fin, de sorte qu'il soit absolument clair que jouer avec le fascisme ne peut que se conclure par un désastre. » Voilà ce que disait le réalisateur du film. Alors, il y a un jeune homme dans ce film, celui qui se suicide à la fin, et celui qui se prend le plus au jeu. Il se laisse, pourrait-on dire, submerger par la vague. Peut-on établir un parallèle, selon vous, Vincent Cespedes, par exemple, avec Anders Behring Breivik, l'auteur de La Tuerie, qui cet été en Norvège a fait 69 morts, proche des milieux d'extrême droite, et qui s'est laissé lui aussi envahir par une idéologie haineuse ?
Les parallèles, pour moi, sont évidents quand je remettais ça au niveau de la jouissance dans des sociétés où les individus sont désolidarisés, frustrés, effectivement, et ne trouvent pas comment le jouir en commun, le plaisir en commun, et quand ils décident de prendre le parti pris de la haine. Mais ça s'arrête là, la comparaison, parce que avec le tueur d'Oslo, on a vraiment quelqu'un qui s'est créé son idéologie de toutes pièces. On ne peut pas dire qu'il a pris un corpus existant. C'est syncrétique, si vous voulez. Il a pris dans plein de corpus. C'est un mélange. Quand on lit un peu son manifeste, on a un mélange de tout, y compris des intellectuels français, tout ce qui est bon pour alimenter finalement un nous contre eux. C'est-à-dire une communauté soudée qui fantasme blanche, chrétienne, etc., contre l'agression extérieure, intérieure, etc. Donc on a affaire plutôt à une volonté de plaquer quelque chose de l'ordre de la psychose avec des arguments politiques, historiques. Donc non, ça s'arrête là. Par contre, ce qui est intéressant dans le film, et ce qui est quand même vraiment bien montré, c'est le rapport religieux qu'entretient ce mode. On n'est pas dans la politique avec ce film. On est dans une politique et une religion. L'émergence d'une secte, en fait, d'une religion nouvelle. Il y a le logo, il y a le salut, il y a tous les ingrédients qui sont effectivement didactiques. Moi, je vois ça comme une allégorie. Il n'a pas la prétention d'être un film historique. Mais c'est une très belle allégorie, presque une fable philosophique, sur cette dimension religieuse. Et les gens, plutôt que de se fier à la raison a fait beaucoup de dégâts aussi, la technocratie nous étouffe, eh ben, ont une aspiration aussi, je dirais, spirituelle, avec tous les guillemets qu'il faut, et on voit ça quand même dans le film, l'idée de, voilà, je vais œuvrer pour quelque chose qui dépasse la satisfaction personnelle, mon égoïsme personnel, je vais œuvrer pour une cause, pour une communauté, et ça c'est très bien montré dans le jeu, et je pense qu'on retrouve ça dans le tueur d'Oslo.
Très rapidement sur la comparaison avec Anders Behring Breivik, parce qu'ensuite je voudrais qu'on explique un terme important, national-populisme, on en parle, mais qu'est-ce que c'est ?
Une chose dans ce film qu'il faut noter, c'est que la dimension idéologique n'est pas du tout présente toute une partie du film, elle n'apparaît finalement qu'à l'extrême fin du film. D'une certaine façon, et en effet, c'est beaucoup plus la composition d'une religarée, au sens du religieux originel. Religarée, c'est ce qui nous relie. C'est la communauté d'appartenance qui est beaucoup plus évidente que l'idéologie en elle-même. Ce n'est qu'à la toute fin que, d'une certaine façon, la récupération idéologique de cette matière vive, de cette matière vivante qui est la vague, qu'elle est devenue, est faite par le héros principal, le professeur. Mais juste pour démontrer l'absurdité du système et où ça peut entraîner. Mais ça peut entraîner dans d'autres formes aussi. Et comme le dit Vincent Cespedes, c'est plus l'émergence d'une secte, d'un entre-nous, d'un entre-soi, que l'émergence d'une idéologie en soi. Et ce qu'il faut bien noter, et c'est pour ça que les comparaisons sont parfois un peu difficiles, c'est que ce n'est pas cette forme didactique n'amène pas forcément à ce fascisme dont nous parlons, le national-populisme. Je rappelle que le fascisme originel vient des fasci, c'est-à-dire des groupes de personnes qui sont un peu comme ces jeunes gens qui décident à un moment d'aller casser du rouge dans l'Italie des années 10 et 20. Donc ce n'est pas du tout une idéologie pleine et entière qui mène ces gens au départ. C'est après que l'idéologie vient se coller sur une matière vivante, émergente, qui est la révolte d'une partie de ce qu'on va appeler un peuple.
Alors, donnez-moi... Oui, allez-y, voilà, après j'ai une question pour vous,
Geneviève Renéranger. Sur cette histoire de manipulation, on est quand même en train de dire qu'à travers des phénomènes décrits dans le film, plus ou moins de façon schématique quand même, on veut expliquer le fascisme, ce que ça a été. Et ça, c'est pas possible. Et ça revient quand même à remettre toute la responsabilité sur, comme vous avez dit, une partie du peuple, c'est-à-dire sur les petites gens, sur les masses. Parce que même quand on dit les masses, manipulation des masses, on parle de qui ? Les masses, excusez-moi, mais on vit quand même dans des sociétés de classe où il y a des différences. Et si on veut parler du fascisme, là vous l'avez dit, si on veut comprendre les origines du fascisme, bien sûr qu'il y a eu un aspect manipulation, ça ne choque pas Karl Lang pour cause, mais oui, les uniformes, l'embrigadement, etc., ça existait. De qui ? Des déclassés, des anciens combattants qui étaient complètement dévastés par ce qu'ils avaient vécu, etc. Mais la vraie question, c'est quand même à qui a profité le crime ? Parce que ce n'était pas seulement manipuler les gens, parce qu'ils avaient envie de se laisser manipuler. Même quand vous dites les fascistes, ils sont allés casser des rouges. Non, on les a envoyés casser des rouges. Parce que c'était dans tous les pays européens à ce moment-là qu'il y avait des bandes armées. Pourquoi ? Pour aller casser les militants ouvriers, pour aller détruire les militants ouvriers, pour empêcher les ouvriers de se battre, pour faire en sorte que les patrons d'usines, les Krupp, les Thyssen en Allemagne, qui ont payé quand même les bandes armées d'Hitler, avant même qu'il arrive au pouvoir, que ces Krupp et ces Thyssen, ils puissent exploiter en silence. Parce que pour les fascistes, comme pour les patrons, une bonne classe ouvrière, c'est une classe ouvrière résignée, qui veut bien travailler plus pour gagner moins, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, et c'est quand même ça. Si on ne se pose pas cette question, à qui a profité le crime, on ne se donne aucune chance de le combattre dans l'avenir. Alors c'est un peu votre sujet.
Est-ce que je peux dire un mot sur cette question, n'est-ce pas ? C'est assez surréaliste, n'est-ce pas ? Parce que ce film traite de la question des comportements humains. Bon, on le relie à la Norvège, c'est un cas psychiatrique. Mais, n'est-ce pas, tout ce type de comportement s'inscrit dans toutes les sociétés humaines qui sont des sociétés totalitaires. Il n'y a pas besoin de remonter au XXe siècle. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un certain nombre de dictatures qui fonctionnent de la même manière, en utilisant les mêmes méthodes de conditionnement psychique, d'encadrement des populations, de terreur sur les masses, de dictature d'État contre les populations. Le fascisme qui a disparu en 1945, c'est un de ces épiphénomènes. Et pour tous ceux, madame, qui défilaient en uniforme, etc., je peux vous assurer que dans tous les régimes communistes, sans exception, c'était les super champions du militarisme, de la dictature, de la répression, du goulag, de la déportation, du massacre des populations, des 100 millions de morts du communisme, n'est-ce pas ? Bon, alors moi je renvoie
dos à dos. Vous pouvez toujours parler de l'URSS, s'il vous plaît. Dont les ancêtres sont morts dans les camps soviétiques et dans les camps nazis, parce que je suis trotskiste. Moi, mes copains, ils ne se réclament pas de Pétain comme les vôtres.
Non, mais ils se réclament de
Oui, j'en suis fier. Voilà. Des communistes qui veulent l'émancipation de l'humanité.
Et on avance.
La révolution bolchevique de Lénine était aussi portée par Trotsky. On a vu ce que ça donnait. Donc tout ça, moi je renvoie dos à dos tous les totalitarismes. Alors moi je ne choisis pas entre les rouges et les noirs, je les renvoie dos à dos. Mais je dis simplement que réduire ce film qui a un vague intérêt relativement à l'action psychologique, aux techniques de manipulation des individus, dans l'attente de manipulation des masses, ce sont des techniques qui existent aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines dans tous les pays arabes. On essaye de mettre en place des régimes dits démocratiques suite aux dictatures. Moi, je crois qu'ils seront remplacés par d'autres dictatures, mais c'est un autre sujet. Je pense que, voilà, c'est au moins que si ce film sert à quelque chose, c'est mettre en garde les populations d'aujourd'hui sur les dictatures d'aujourd'hui. Et je crois que face à cela, on ne peut que rappeler la nécessité de l'attachement aux libertés. Et un petit mot par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous reliez ça, je vois bien le lien intellectuel avec la démarche sectaire et religieuse. Mais n'est-ce pas, la religion, ça n'est pas la dictature, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas que suite à cette analyse, on ait le sentiment que la démarche d'attachement à la communauté et à la communauté religieuse apparaisse, vous voyez, comme une sorte de dictature. C'est aussi la liberté de conscience, c'est aussi le libre choix. Bon, donc moi je crois qu'il faut que ce petit film reste au niveau qui est le sien et qu'on n'en tire pas de conséquences ni politiques, ni idéologiques, ni historiques.
Alors, en revanche, nous allons parler du rapport qu'on peut-être, à vous de me donner votre avis, établir avec la situation aujourd'hui en Europe, puisqu'on s'aperçoit que le national populisme marque des points au Danemark, en Suisse, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, pour citer quelques-uns de ces pays où les récentes élections ont vu des mouvements de ce type faire de très bons scores. Peut-on parler, Erwan Lecoeur, d'un mouvement de fond en Europe ?
Oui, au-delà du film, au-delà de la discussion sur le film lui-même, bien entendu, il y a clairement en Europe, et pas seulement depuis les dernières années, mais depuis un certain nombre d'années maintenant, un mouvement de recrudescence des thèses qu'on va appeler nationales populistes, bien entendu. Que ce soit en France avec le Front National à une époque, que ce soit en Italie avec la Ligue du Nord et d'autres, en Norvège, Danemark, dans ces pays que, je vous le ferai remarquer, qui ne sont pas les pays les plus pauvres d'Europe, qui sont plutôt les pays où les gens ont peur de perdre. C'est pas en général les gens du peuple et les pauvres qui votent et qui se liguent dans ces mouvements-là, c'est plutôt ce qu'on va appeler les gens du milieu, les petites gens qui ont du bien, qui d'ailleurs on a appelé ça la boutique, hein, le monde de la boutique, qui a peur de perdre. Hein. C'est plutôt la peur de perdre qui fait s'embrigader dans des mouvements de ce type, qui parfois deviennent en effet des mouvements très embrigadants, très sectaires, voire très, très forts.
Alors, qu'est-ce que ça recouvre, national-populisme ? Vous avez dirigé la rédaction du dictionnaire de l'extrême droite. National-populisme, extrême droite, c'est la même chose ?
Non, ce n'est pas exactement la même chose, évidemment, de la même façon qu'il y a à l'extrême gauche des diverses provenances, diverses affiliations. Si l'on parle du trotskisme, ce n'est pas la même chose que le stalinisme, qui n'est pas la même chose que le léninisme. De la même façon, l'extrême droite. Originellement, l'extrême droite en France, c'est les gens qui se posaient à l'extrême droite de l'Assemblée nationale, de ce demi-cercle, c'était les contre-révolutionnaires. Ensuite, ça a été un certain nombre de mouvements. Il y a eu les contre-révolutionnaires, puis le bonapartisme qui a repris des aspects, puis des populismes, des restaurations monarchistes. Ça a été ça au départ. Et puis, depuis le début du XXe siècle, fin du XIXe, XXe siècle, ça a été ce qu'on appelait les ligues.
les ligues de patriotes d'abord, puis les ligues antisémites ensuite, et qui sont devenues les ligues fascistes des années 30, hein, qui ont failli mettre la République à genoux un certain soir de février. Et depuis, en France, on a pris l'habitude d'appeler extrême droite cette partie, cette mouvance générique dans la vie politique française. Évidemment, il est compliqué de dire si Pierre Poujade était d'extrême droite ou simplement populiste. Il est plutôt populiste. Ensuite, on a...
Aujourd'hui, quand on demande à Marine Le Pen, est-ce que vous êtes d'extrême droite, elle répond non.
Elle dit évidemment que non, puisque...
Mais pour vous ?
Pour moi, le Front National est constitué majoritairement à ses débuts, en son milieu et encore aujourd'hui, de gens qui sont issus de ce qu'on a appelé l'extrême droite. Donc pour moi, le Front National est bel et bien une parmi d'autres expressions de ce qu'on appelle l'extrême droite.
Vous êtes d'extrême droite.
Le Front National n'est pas que cela. C'est toujours ça la difficulté qui permet à Marine Le Pen, à son père ou à Karl Lang en son époque de dire « Mais nous ne sommes pas à l'extrême droite, puisque regardez, nous avons aussi des gens qui ne sont pas à l'extrême droite. » Évidemment.
N'est-ce pas, le mot « extrême droite » ou même « extrême gauche », en tous les cas, l'utilisation du mot « extrême », ça ne veut rien dire. N'est-ce pas ? On ne peut pas comparer les grands mouvements de reconquête identitaire nationale européenne qui existent en Europe aujourd'hui avec ce qui s'est passé au XXe siècle. On ne peut pas avoir des logiciels d'analyse, des logiciels d'interprétation qui fonctionnent en fonction de ce qui se passait en 1930 en Allemagne, en Italie. C'est absurde ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et ça, manifestement, il faut avoir des œillères pour ne pas s'en apercevoir. C'est au contraire une réaction essentiellement populaire et démocratique. L'essence du totalitarisme, c'est la dictature de l'État. Les mouvements de réaction et de renaissance identitaire nationale européenne aujourd'hui revendiquent l'attachement à la démocratie et voire même souhaitent la démocratie directe contre les États qui ne leur permettent pas de s'exprimer. Mais donc tout ceci a totalement changé, n'est-ce pas ? On ne peut pas, il ne faut pas avoir une analyse idéologique par rapport à ce qui se passe. Il faut une analyse politique, Vincent, historique et réaliste.
Vincent Cespedes. Je crois que ça correspond à quelque chose, extrême droite, extrême gauche ?
Oui, ça correspond à quelque chose, bien sûr. Les mots ont été dits, la notion d'identité. Philosophiquement, l'identité et tout le débat qu'on a eu sur l'identité nationale, ce sont des débats d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une pureté, il y a l'idée d'une identité à sauver. Elle est toujours en péril, l'identité. L'identité sert à dire, attention, elle est menacée. Ça sert à rien, sinon, une identité. Et donc, on affirme une identité contre d'autres identités qui menace notre identité. Cette logique-là est une logique d'extrême droite qui peut conduire au pire. Alors peut-être pas quand l'extrême droite est minoritaire, mais quand l'extrême droite, par une belle démocratie, arrive au pouvoir, l'État, comme vous dites, là, le fameux totalitarisme d'État, justement l'État peut suivre et prendre les commandes de cette idéologie-là. Et c'est étonnant, en parlant d'extrême droite, de ne pas parler d'idéologie. Ce film ne parle que d'idéologie. Et justement, ce qui est intéressant dans ce film, passionnant dans ce film, à tous les points de vue, c'est qu'on voit des jeunes qui disent « Ah ouais, on va pas nous la faire, nous, on n'est pas manipulables », et se faire complètement retourner le cerveau de façon assez crédible et complètement manipulée. C'est ça qui est intéressant dans ce film.
Restons sur la terminologie.
L'identitarisme, c'est ça la notion centrale du film et du rapport à l'extrême droite. Croire à l'identité fixe, rigide, dont qu'on irrite, et une identité menacée qui va être en guerre contre les autres identités.
Geneviève Reméringer, est-ce que vous vous revendiquez d'extrême gauche ?
Alors, moi, je veux bien me revendiquer de l'exact opposé de Karl Lang, ça ne me pose aucun problème. Mais non, moi, je ne me sens pas extrémiste, je suis communiste. C'est-à-dire que je suis pour que ce qui existe sur nos écoles, liberté, égalité, fraternité, ça ne soit pas que des mots, pas que des mots dans des discours, mais une réalité pour une société juste. Et là où vraiment je trouve qu'aujourd'hui, oui, il y a un problème, je ne comprends pas ce terme de populiste. Je trouve que, un peu comme le reste, un peu comme des discussions psychologiques sur le fascisme, ça gomme les choses. Ce qui se passe en ce moment, c'est une montée des idées, des préjugés réactionnaires. Vous dites identitaire, moi j'ai envie de dire, de tout ce qui porte la haine de l'autre. Oui, c'est ça qu'ils ont dans leurs idées sur la communauté, sur la défense du chauvinisme, etc. C'est tout ce qui peut monter contre les Roms, contre les Tziganes en Europe de l'Est, les bandes fascistes en ce moment, ou les bandes qui se réclament de ces idées, c'est ce qu'elles font. Contre les sans-papiers, contre les chômeurs, bref, tout ce qui fait qu'on peut taper sur les plus pauvres. Et ça, oui, ça représente un danger. Parce que si demain, il y en a qui veulent s'en servir, eh ben, les Karl Lang, les Le Pen, les Gollnisch, etc., ils ont les armes, hélas, les Sarkozy et les Guéant aussi, parce que c'est aussi ce qu'ils font. Ils sont en train d'apporter les armes idéologiques qui pourraient servir de boussole à des courants fascistes.
Il y a quand même des thèmes sur lesquels extrême gauche et extrême droite se rejoignent. Je pense au rejet du capitalisme, des élites, des banquiers en ce moment, avec la crise
financière. C'est leurs copains, les milliardaires.
Avec la crise financière, Le Coeur, il y a quand même des thèmes sur lesquels ils se retrouvent, non ?
Il y a des moments où, en effet, un certain nombre de courants issus de l'extrême gauche ou de l'extrême droite peuvent se rejoindre, et on l'a vu dans l'histoire, c'est d'ailleurs ce qui fait la confusion des esprits en général. Mussolini était quelqu'un qui venait plutôt de la gauche, voire de l'extrême gauche.
Et puis, syndicalistes et révolutionnaires de gauche.
Mais la question, en effet, du populisme, et je comprends qu'elle est gênante. Elle a toujours été gênante en sciences politiques. Elle est très difficile à distinguer. Il y a plusieurs formes de populisme, dont le populisme du peuple, entre guillemets français contre le reste des peuples, mais il y a aussi le populisme des petits contre les gros. Les petits, ceux qui n'ont pas, contre les gros, ceux qui ont. C'est-à-dire les banquiers qui n'ont pas d'État, en général, ils sont juifs, etc. Et là-dedans, on a trouvé, en effet, dans l'histoire, des convergences entre des gens qui venaient du communisme le plus extrême et d'autres idéologies qui venaient plutôt de l'extrême droite, en effet, sur le thème du populisme, du petit contre le gros. Et ça, on le voit aujourd'hui avec Marine Le Pen à nouveau.
Quand ils étaient au pouvoir, alors, ils n'ont pas fait ça.
Évidemment, mais
Hitler, ils ont servi, justement, le grand capital.
Bien entendu, ils ont servi, sans doute, peut-être le grand capital.
Et eux, leurs copains, c'est les patrons. Mais justement, ils dénoncent les pauvres pour pas dénoncer les patrons.
Ceci étant dit, là, on parle du populisme en tant que discours et que méthode d'accession au pouvoir. Et les fascismes ont connu...
Mensonge, donc.
Peut-être,
mensonge.
Bien sûr, mais
démagogie.
Est-ce que les autres ne mentent pas pour accéder au pouvoir? C'est toute la question. Mais la question des fascismes et de leur émergence comme populistes d'abord, avec les SA, par exemple, qui étaient très... à gauche, finalement, d'une certaine façon, dans leur idéologie. Puis les SS, qui étaient beaucoup moins à gauche dans leur idéologie, les différents fascismes et leur émergence jusqu'à ce qu'on a appelé le nazisme, qui était tout à fait autre chose, mais qui est quand même le national-socialisme, etc. Tout ça a beaucoup, beaucoup brouillé les pistes. Oui. Et donc, vous avez raison, il y a une méthodologie que l'on voit à l'œuvre dans le film, qui est la méthodologie de mise en évidence des frustrations, du besoin de communauté, du besoin d'être ensemble contre le reste du monde. C'est ça que le film montre. Et puis ensuite, il y a des idéologies que l'on peut coller dessus. Et ces idéologies, je ne dis pas qu'elles viennent forcément de l'extrême droite, mais en général dans l'histoire, elles sont en général beaucoup plus congruentes quand elles viennent de l'extrême droite, parce qu'il y a l'aspect que nous avons oublié de discuter, qui est le chef, le leader incontesté, incontestable.
Leader charismatique. C'est-à-dire que tous les mouvements dont on parle ont généralement à leur tête un leader charismatique.
C'est un de leurs points communs absolus, en effet.
N'est-ce pas? Et pour illustrer ce qui vient d'être dit...
Il reste quelques minutes, donc chacun essayez d'être bref.
Enfin, puisque c'est un débat sur le fascisme et le communisme, moi je me suis sans concerné par aucun d'entre eux. Mais historiquement, en effet, n'est-ce pas, il faut voir que un certain nombre de chefs de la collaboration venaient de la gauche et de l'extrême-gauche. Jacques Doriot était l'ancien chef des jeunesses communistes avant-guerre, qui a créé ensuite le Parti populaire français. Déa était un des intellectuels du Parti socialiste avant de rejoindre la collaboration. Donc il y a historiquement, puisqu'on est parti dans le débat du passé, là on est dans le XXe siècle, on est dans ce qui s'est passé il y a 80 ans maintenant. Bon, on n'est pas dans l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu un lien de forme indiscutable quant aux méthodes et de fond entre le communisme et le fascisme. Il n'est même pas la peine de rappeler aussi, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'anecdote historique, les financements de ces révolutions. Qui a financé la révolution bolchevique de 1917? Ce sont les mêmes qui ont financé Hitler 15 ans plus tard. Les grandes banques d'affaires américaines. Intéressez-vous à l'histoire, vous êtes prof d'histoire géo, vous le savez mieux que moi, madame.
Erwan Lecoeur, juste très rapidement, mais je vous vois beaucoup réagir quand vous entendez Karl Lang, sur quel point en particulier?
Oui, parce que c'est une des thèses et une des théories qui a été beaucoup utilisée, notamment ces dernières années, et par la nouvelle droite des années 70, pour décrédibiliser, en gros, toute forme de différenciation entre les fascismes, disons, nazis et italiens, et l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Donc ces thèses, on les connaît. La question, en effet, c'est celle de quelle forme d'identité constitue le groupe? Eh bien, dans un cas, c'est la classe sociale, et dans l'autre cas, c'est une forme de racialisation du monde et de vision ethnicisée du monde, qui rejette l'autre en fonction non pas tellement de sa position sociale, de ce qu'il décide de faire dans la société, mais de sa communauté d'appartenance ou de référence. Et c'est ça la grande différence entre les deux. Et c'est bien ça, pour répondre à votre question d'origine, c'est bien ça qui gagne dans nos pays en ce moment, et c'est pour ça que l'on parle de ce national-populisme, et non pas d'un populisme ou d'une forme de populisme communiste qui pourrait éventuellement remettre en place des notions comme la classe sociale, le combat des petits contre les gros, etc., etc. Et la réponse à la question pourquoi l'extrême droite plutôt que l'extrême gauche, c'est qu'il est plus facile de voir un ennemi dans celui qui ne nous ressemble pas que dans celui qui n'a pas comme nous, qui est juste au-dessus ou juste en dessous dans l'échelle sociale.
Bah, c'est aussi la question que j'allais poser. Alors, je vous demande à tous les deux vraiment de me faire une réponse brève, si possible. Mais j'allais vous poser une question sur le point que vient de relever Monsieur Lecœur, Geneviève Remeringer. Pourquoi l'extrême-gauche aujourd'hui, théoriquement proche de ces gens qui sont le plus frappés par la crise, par la mondialisation, par la globalisation, se porte-t-elle aujourd'hui beaucoup moins bien que l'extrême-droite ?
Mais c'est pas qu'on se porte pas bien. Là, vous me parlez des élections. C'est vrai qu'on se porte comme les gens de notre classe. C'est-à-dire, on vit mal en ce moment la situation économique parce que le grand patronat, les banquiers, les spéculateurs, ils sont en train de mettre des coups. Et que pour réagir à ça, il faudra des luttes. Il faudra pas seulement la démagogie. La démagogie, elle sert justement pas à se battre, à être aveuglé. Et c'est ce qui se passe avec les mouvements d'extrême droite qui montent en Europe. Pour que les classes populaires, elles se défendent, ben il faudra qu'elles entrent en lutte. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on est de leur côté. Est-ce que je peux pas laisser dire juste ça ? Quand vous dites qu'ils s'en sont pris au gros de la même façon. Non, il y a des régimes quand même, les fascistes, ils ont servi les grands patrons, ils ont été financés par eux. On peut pas confondre les choses, sinon on ne comprend rien.
Vincent, l'extrême-gauche est mal en France parce que l'alliance s'est faite avec la droite. Et l'alliance aujourd'hui n'est plus du tout. C'est surréaliste d'entendre qu'il y a des liens entre extrême gauche et extrême droite.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites l'alliance est faite avec la droite ?
Le discours de droite aujourd'hui est un discours d'extrême droite, tout simplement, qui vise l'exclusion, qui prône l'identité nationale.
Les thèses de l'extrême droite ont déteint sur les programmes des partis de droite traditionnels.
La lepénisation des esprits, elle a réellement lieu. Et l'ethnisation des débats fait qu'au lieu d'avoir une grille sociale sur les choses comme l'extrême gauche ou la gauche essaie de l'avoir, on a une grille de lecture ethnique sur les choses. C'est pour ça que moi, je préfère parler non pas de national-populisme, mais de national-racisme. Et qu'on a des éditorialistes très fameux qui font le tour des télés et qui disent « vous êtes de la race noire, je suis de la race blanche », etc. On a un discours extrêmement dangereux, la réhabilitation de la notion de race qui ne veut absolument rien dire scientifiquement, mais qui permet des distinctions du « nous » contre eux, etc. Donc on a une réelle montée. Pour penser cette montée du national-racisme, il faut bien comprendre qu'elle monte à l'échelle européenne et que les connexions sont à l'échelle européenne. Si on a une vision du national-racisme purement en France, on ne comprend pas la portée du phénomène et évidemment la tragédie d'Oslo vient nous le rappeler.
Vous ne risquez pas de comprendre. Désolé, c'est fini, je suis obligé de vous interrompre. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation et d'avoir défendu dans le peu de temps, on trouve toujours qu'il y a peu de temps pour faire ces débats, mais enfin c'est déjà mieux que rien. Le peu de temps qui nous était consacré, vous avez chacun fait valoir vos points de vue. Je rappelle ce livre, voilà, très intéressant, qui permet de prendre du recul. Le dictionnaire de l'extrême droite, dirigé par Erwan Lecœur, qui était parmi nous. Merci, on se retrouve en ce qui nous concerne le mois prochain, bien sûr, sur la chaîne parlementaire pour un autre film et une autre séance.